session de philosophie sur la liberté par le père Philippe à Saint-Jodard, le 2 septembre 1988, 16e conférence.
C'est la dernière conférence au plan spirituel, surnaturel. Nous terminerons là. Alors, il y a quelques questions. Je vais les prendre tout de suite. Pouvez-vous préciser la liberté par rapport à la détermination et à l'art? L'art détermine du côté de la détermination, de la spécification, les moyens déterminés de l'art. Il n'y a rien de plus impératif qu'un artiste, qu'un grand artiste. J'ai rencontré dans ma vie plusieurs fois Rouault. Et Rouault était artiste et breton. Et quand les artistes sont bretons, ils le sont au carré. C'était vraiment... Je connaissais ses petites nièces. Et ses petites nièces m'avaient dit, si vous voulez le rencontrer, venir prendre votre repas chez lui. Ce serait facile. Et j'avoue que j'étais un peu tenté. J'aime toujours de rencontrer des artistes dans l'intimité. Et route, on a commencé, on m'a averti. Ah, je n'aime pas les curés qui s'occupent de l'art. Préambule. Qu'ils fassent leur métier et qu'ils laissent les artistes faire leur métier. Vous voyez très bien de qui il parlait. Alors je dis, je comprends très bien. J'aime pas les critiques d'art. Alors il m'a regardé. Ah, vous n'aimez pas les critiques d'art. Et moi non plus. Donc nous étions là, d'accord. Alors je dis, qu'est-ce que vous faites alors? Je dis, j'enseigne la philosophie. Et je crois qu'un homme qui est vraiment homme doit être philosophe. Ça m'intéresse de voir le développement de l'art par rapport à l'homme. Alors à ce moment-là, il me dit, ah, c'est tout à fait différent. Donc, vous écoutez les artistes? Je dis oui, je les écoute et je viens pour vous écouter. Ah bon, alors je peux parler. Et puis c'est bien parlé. Pratiquement, il n'y avait que lui qui parlait. C'est ce que je voulais, c'était l'entendre parler. Entendre parler et surtout l'entendre parler d'autres artistes. Parce que ça, alors, c'est un pugilat de premier ordre. Et comme l'autre artiste n'est pas là, et qu'il fait le mort, on entend que l'artiste vivant. La manière dont il a parlé de Chagall, ça, c'est resté. Je ne connais qu'un seul Moïse. Bref, ça ne signifie rien. Alors, il prenait son langage vert, comme les artistes peuvent le voir. C'est très intéressant. Le Rouault était un loup. Je l'entends encore me dire, à un moment donné, j'ai brûlé 300 de mes tableaux. On dira dans l'histoire, Rouault est sadique. Il a brûlé 300 de ses enfants. Alors à ce moment-là, il m'a regardé. Il ne me plaisait plus. Oui, le mot, ce qui plaît. Il ne me plaisait plus. Et je ne voulais pas qu'on me juge en fonction d'eux. Alors je les ai brûlés. Il n'y avait que ça à faire. Un beau feu de cheminée. Roux a vécu fait partie, oui, du tempérament de l'artiste. L'artiste est libre dans cette liberté d'exercice de dire non ou oui. Pas dans le choix. Ça, c'est très net. Le choix, il ne choisit pas. Je me souviens avoir vu une petite artiste, petit génie, je ne sais pas ce qu'elle a vu. C'était une japonaise, la fille d'un grand japonais, parce que c'est rare que les japonais sont grands, mais là c'était un grand japonais. Un type assez extraordinaire, qui était peintre lui-même, mais qui était peintre d'une manière tout à fait classique, alors que la fille c'était pas ça du tout, c'était de l'art abstrait. Elle avait 5 ans. Surdoué au point de vue artistique. C'est assez extraordinaire. Il m'a raconté qu'un jour, elle traversait une forêt auprès de Paris. Et il y avait un feu qui avait gagné la forêt. Alors elle avait regardé ça. Ce feu. Ce feu en liberté. Ce feu sauvage. Et là, elle s'est réveillée la nuit, à 3h du matin, mais d'elle-même, pour se mettre à faire des vitraux de feu. Elle avait pris le vitrail. C'était beau. Très difficile de découvrir l'artiste, il n'y a pas une amitié. Vous savez, je crois que le philosophe doit avoir des amitiés chez les artistes, comme chez les savants. Mais c'est plus facile, hein, chez les savants de connaître ce qu'ils pensent, ce qu'ils écrivent. Tandis qu'un artiste peintre n'écrit pas, il peint. C'est à travers sa peinture qu'on doit deviner tout cela. Donc, il n'y a pas d'opposition, c'est sur deux plans différents. Les voies déterminées de l'art, c'est la détermination, la liberté de l'exercice, c'est les deux. C'est ce que je voulais achever tout à l'heure, je n'ai pas pu. Alors, je le dis tout de suite, parce que c'est une division classique. Est double en elle-même. Liberté d'exercice. Oui. Non. Donc elle est au niveau de l'affirmation et de la négation. J'accepte cette commande. J'accepte d'exécuter. Non. Aujourd'hui, je ne suis pas en état de grâce. Je n'existe pas. La liberté du choix, c'est entre tel ou tel. C'est cette liberté de choix qui est niée à partir de Descartes. Descartes ne garde que celle-là. Et c'est en ce sens-là que je dis Descartes, c'est une liberté artistique. Parce que de fait, c'est une liberté qui est définie en fonction de l'exercice. Et non pas en fonction de la spécification. secondement. Liberté de choix. Alors, évidemment, cette liberté de choix, porte sur telle détermination, telle autre détermination. Vous allez tout de suite comprendre, n'est-ce pas ? J'accepte de réaliser cette œuvre, je n'accepte pas. Je n'en veux rien. Je ne sens pas un état de grâce pour faire ça. Tandis que la liberté de choix, on discute sur tel ou tel moyen, telle ou telle matière, telle ou telle, oui, pas de choses comme ça. Tandis que la liberté d'exercice, c'est le point de vue du choix. Alors on a beaucoup l'onde, on a beaucoup d'un côté réfléchi, disons. Laquelle est première ? Laquelle est la plus fondamentale ? Pour voir si une chose est fondamentale par rapport à une autre, la plus fondamentale est présente dans la suivante. Or, dans la liberté de choix, on dit oui et on dit non. Dans la liberté d'exercice, on dit oui et non. Donc, on aura une subdivision de la liberté d'exercice. Le oui regarde tel choix, tel choix. C'est pas un oui tout court. Le non également regardera tel ou tel. Vous voyez, c'est soumis à l'intérieur. C'est donc quelque chose de second. La liberté de choix peut être niée sans que soit niée la liberté d'exercice. Beaucoup de psychologues aujourd'hui nient la liberté de choix. Non, c'est impossible, ça ne peut pas exister. Et pourtant, ils acceptent la liberté d'exercice. Parce que c'est très difficile de la nier. On peut poser ou poser pas. Poser un acte ou pas poser. Même s'il y a un commandement et qu'il y a l'obéissance qui joue. La première chose qu'on demande à l'obéissance, mais faites quelque chose, même si vous ne faites pas exactement ce qui a été demandé, c'est déjà quelque chose. Mais, donc, ces deux s'engendrent, et l'une est première dans l'ordre liberté d'exercice, et première dans l'ordre du fondement. Et l'autre est première dans l'ordre de l'explicitation. Qui dit oui, je veux choisir tel objet, implique le fait qu'il veut faire qu'il veut réaliser l'œuvre. Mais, donc tant du côté de l'objet que du côté du sujet. Alors, la question posée était. Une fois qu'on a posé ça, la liberté d'exercice va donc nous mettre en face de quelque chose de tout à fait fondamental. Dans l'exercice de notre liberté. c'est là où il faut comprendre ce que c'est que la liberté. C'est quelque chose de tout à fait fondamental. C'est quelque chose de tout à fait premier. Or, la liberté d'exercice nous montre d'une manière très absolue un acte libre, négatif. Je ne veux pas faire cela. Je ne veux pas réaliser cela. C'est impossible. Je nie tout, sauf ma capacité. Je pourrais le faire, mais je ne veux pas. Tandis que dans la liberté de choix, je risque. Je ne dis pas que je réaliserai nécessairement. Qui dit la liberté ne dit pas nécessairement réussite. Ah, ça, c'est très intéressant. Vous comprenez? Qui dit liberté, on accepte, oui. Je vais réaliser tel choix. Ici, c'est l'homme. Oui, non, à tel ou tel choix, ça ne veut pas dire que nécessairement cela va réussir. La liberté de choix peut avorter, peut aboutir à quelque chose d'une impasse, ça c'est sûr. Donc ça peut aboutir à un échec. C'est l'homme qui subit cet échec. Cet échec n'est jamais absolu. Pourquoi? Parce que l'échec ne touche pas le libre arbitre. Cette capacité que nous avons qui lutte contre le froid, contre la pluie. Et l'ozone qui prie, avant tout une prière contemplative, que la volonté de Dieu se fasse, et nous serons là pour le remercier. Donc il y a quelque chose qui va au-delà de l'homme. Et c'est vrai, et c'est très important à noter, c'est que l'amour volontaire est au-delà de la liberté. Nous avons donc un amour libre, un amour non libre. Ne disons pas, nous avons un amour libre et un amour violent. C'est pas juste. L'amour comme tel est au-delà du libre et du non libre. Et cependant, il a un ordre premier vers l'amour libre. L'amour est plus naturellement libre que forcé. Vous allez me dire pourquoi ? Parce que une faculté de puissance n'est parfaitement elle-même que quand elle est tournée vers ce pourquoi elle est faite, ce qui la définit, ce qui lui donne une possibilité de dépassement. Alors cette volonté, cette liberté qui reste bonne, a un fruit qu'elle porte en et si ce fruit regarde le point de vue radical, Jeanne, je veux dire Marie, au pied de Jésus. Marie au pied de Jésus. Là, elle veut rester jusqu'au bout. Et là, nous trouvons un acte libre de choix de rester là. Et le dernier acte de la créature comme telle, c'est de prendre Marie chez elle. Oui, c'est un acte divin, il vient d'en haut. Alors que tous nos actes viennent d'en bas. Mais nos actes peuvent très bien soulager certaines consciences. C'est ça le rôle propre, vous voyez, de l'acte pur. C'est de montrer que le bien a une propension naturelle vers le bien. Comme l'intelligence a une proportion naturelle vers le vrai. Et prétendre que l'intelligence n'est pas faite immédiatement pour le réel, pour le vrai, comme la bonté n'est pas immédiatement reliée à la bonté, à la beauté. Cependant, on comprend très bien que dans l'acheminement, la phrase de Marie, la phrase de Jean à Jésus sont les mêmes profondeurs qui montrent comment la tradition est nécessaire pour ce dépassement. Continuité. Et la continuité, ce n'est pas en premier lieu l'affirmation négative, mais l'affirmation positive. Qu'est-ce qui fait la tradition? C'est l'acceptation de certaines difficultés par les saints. Et c'est le rejet de certains actes par les saints. Aujourd'hui, nous ne regardons plus l'acte humain comme nécessairement bon ou mauvais. Mais la division acte libre, acte non libre, acte volontaire, involontaire. Vous avez dit qu'on verrait les choses inversées. Acte volontaire. Oui, je veux dire, l'acte bon et l'acte mauvais. La volonté bonne et la volonté mauvaise. Cette distinction entre bon et mauvais, l'acte de volonté, l'acte volontaire. Cette distinction entre le point de vue du bon et du mauvais, est-elle une distinction fondamentale? La première distinction. Je serais tenté de le dire dans l'ordre pratique. Bonne volonté, l'être humain ne se diminue pas. Mauvaise volonté, le refus, l'être humain se diminue. Il se sclérose, il se referme sur lui-même. Et quand ça vient comme une seconde nature, à tel nombre, bien, ça va vers la destruction automatique de l'univers. Il ne peut pas être autrement. La négation engendre des négations. Le primat de la philosophie moderne, c'est d'être le primat sur la négation. Donc elle va au suicide. Et lorsqu'il s'agit, au contraire, d'affirmer, c'est la volonté qui trouve son bien. Donc elle n'est pas dépendante de la volonté mauvaise. Dans ces deux contraires, en réalité, c'est une privation et une possession. Et je crois que ça, encore une fois, permet de mieux saisir que la distinction première, libre et non libre, bon et mauvais. Alors, est-ce que vous devez faire comme ça? Mais tout ça, c'est pour mieux préciser, hein. Voyez, libre et non volontaire. Catastrophe, la foudre tombe dessus. Pas le plus loin. C'est bon. C'est mauvais. Donc, l'acte libre mauvais, en réalité, il diminue le champ de la liberté. Alors, quand vous faites l'acte libre bon, il augmente le champ de la volonté, de la bonté. Puisque par son point de vue bon, il ajoute quelque chose. Alors vous voyez que c'est très curieux, cet aspect subjectif de l'amour du bien. Dieu va s'en servir, ou plus exactement, l'homme mené par la providence de Dieu va s'en servir pour aller plus loin. C'est déjà un vrai point de vue humain. Heureuse faute qui nous a valu d'être sauveur. Très mystérieux ça. puis ensuite, si je prends successivement laissant l'autre dormir, donc je mets acte amour volontaire, prenant l'acte bon et l'acte mauvais que je laisse tomber, qui diminue ma liberté, qui diminue mon libre arbitre, comme l'acte mauvais, l'acte d'organe mauvais. Alors je poursuis celui-là, l'acte libre bon. Il peut être différent. Bonté substantielle. Négative, l'acte libre. Nous avons donc l'acte libre substantiel, pardon, l'acte bon substantiel, puis l'acte bon accidentel. L'acte bon substantiel qui atteint la fin, l'acte bon accidentel qui atteint les moyens. Alors ici, l'acte bon substantiel ne pénètre pas dans la division de l'acte mauvais. Vous voyez ? Ça fait donc une division de plus en plus profonde pour l'acte bon. Point de vue substantiel qui touche la fin, qui me permet mon bonheur, et l'acte bon moyen qui me permet de poursuivre. Voilà. Je crois que ça, c'est les grandes divisions. Qu'est-ce que c'est que la situation limite ? Bien, en deux mots, la situation limite, c'est lorsque le conditionnement l'emporte sur la finalité. Le conditionnement est tel qu'il l'emporte sur la finalité. Quand on apporte des êtres aboliques à des psychologues, on est en situation limite. Ménage que je connaissais bien, l'épouse m'a dit, écoutez mon père, ça ne peut pas continuer comme ça. Depuis le début de l'année, il avait déjà au moins 5 mois, il ne sait pas se lever, mon mari. Il se lève à une heure tout à fait capricieuse, vous voyez, pour le métier, pour le travail. C'est impossible. Là, on est en situation limite. Le conditionnement est tel qu'on ne peut plus atteindre la finalité. Donc on ne peut plus aimer. Dans la situation limite, y a-t-il encore de la liberté ? Non. Il n'y a plus de finalité. Morale sans péché. Ça ne veut pas dire que matériellement, il n'y a pas de péché. Matériellement, il y a des choses mauvaises, mais l'intention ne peut pas aboutir là. Il y a quelque chose entre deux. La situation limite est très facile à comprendre. Je la comprenais très bien quand j'étais en Suisse. Les premières neiges neige devient un peu plus forte. On circule tout doucement. La ville chargée d'un plomb. On peut quand même continuer à circuler grâce à des pneus spécialisés. Et en Suisse, on les a toujours, parce qu'on sait que... Et puis, le soir, on décide de partir sur Paris, traverser du Jura, bourrasque, véritable bourrasque. Pourtant, j'avais un chauffeur émérite, merveilleux, qui tout d'un coup m'a dit, père, invoquez Saint-Michel, je ne sais plus, plus mettre de main. On a invoqué Saint-Michel avec force et véhémence. Bien. Oui, ça touche déjà la situation limite, pas entièrement, mais ça touche. C'est dangereux, c'est périlleux. Le péril n'est pas la situation limite. Il y a encore possibilité de maintenir la finalité par telle ou telle circonstance et en acceptant le péril. Ça ne nous est pas arrivé plus loin, plus fort que dans tout en bas de la descente, ça pouvait aller. Mais c'était quand même assez rude, hein, parce que cette descente, elle dure assez longtemps. On se serait arrêté et une forte montagne de neige serait tombée sur nous. Là, on aurait pu être en situation limite. Pas possible de sortir de la neige et donc d'être asphyxié. Situation limite. Voyez donc, la situation limite, c'est pas une question qualitative, c'est une question quantitative, liée au temps et au lieu. La même neige rend impossible. Ça, c'est très intéressant parce que ça montre que c'est l'aspect quantitatif des circonstances qui me met dans une situation limite. C'est pas qualitatif du tout. Le nombre me peut mettre dans une situation. Tous les sensibles communs, le nombre, le mouvement, l'arrêt, peut mettre dans une situation limite. Pas les qualités sensibles, pas les qualités propres. C'est toujours quantitatif. Et ça atteint l'homme dans son opération propre. Je m'arrête. Nous allons chanter quand même maintenant le Salve Regina. Et nous faisons une entorse d'habitude. On doit garder le silence. Je présume que le père économe aura pensé à faire qu'une petite réunion qui ne durera pas trop longtemps où on pourra se dire au revoir.